Europe 1, il est 7h.
Nous tiendrons la tranchée aussi longtemps qu'il le faudra.
La bataille parlementaire sur la réforme des retraites a commencé. L'opposition dans son ensemble mobilisée pour dénoncer l'amateurisme du gouvernement et le flou de la réforme.
Répression et vivre ensemble. Les deux volets du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Mulhouse. Le chef de l'État qui veut s'attaquer au séparatisme islamiste qui mine certains quartiers.
Un chèque à 6 milliards d'euros. Le français Alstom rachète la branche ferroviaire de Bombardier pour devenir un géant de la mobilité durable.
Sciences Po Paris, Polytechnique, quand les étudiants des grandes écoles s'insurgent avec un géant des énergies fossiles dans le viseur, ils ne veulent pas ou plus voir Total s'inviter sur leur campus.
On aura la direction d'un grand groupe pétrolier qui pourra aller prendre le café avec la direction d'une école de la République. Il y a une limite à la proximité à partir de laquelle on est dans l'indécence et là, on y est.
Enquête Europe 1 à suivre.
Dans ce journal aussi, des femmes en quête d'accouchement plus naturel. Et le PSG face à Dortmund ce soir en 8e de finale de Ligue des Champions avec Neymar, cette fois dans les rangs.
Il a la confiance, il a la qualité, ça change tout pour nous. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité.
7h01 sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Leur première journée s'est achevée en début de nuit. Les députés qui n'ont pourtant pas encore examiné le moindre amendement à la réforme des retraites.
Des motions en rejet. Cette première journée a donné le ton entre une majorité qui se veut ambitieuse et une opposition déterminée. Claudia Bertram a suivi ses premiers débats pour Europe 1.
Il me revient avec Laurent Pietraszewski de porter un texte dont l'ambition est grande et même immense.
Le tout nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, ouvre les débats dans une ambiance électrique, coupé à plusieurs reprises par les députés de l'opposition.
L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés, si nécessaire.
41 000 amendements déposés, dont plus de la moitié, 23 000 par les Insoumis. C'est bien ce que promet Jean-Luc Mélenchon, une véritable bataille parlementaire.
Nous tiendrons la tranchée aussi longtemps qu'il le faudra.
Entre deux motions de rejet et une motion référendaire à gauche comme à droite où l'on ne souhaite pas participer à l'obstruction, les députés se retrouvent pour dénoncer l'amateurisme du gouvernement. Valérie Rabault, élue socialiste.
C'est donc un big bang que vous lancez. Cela aurait nécessité à minima sérieux, rigueur et non l'amateurisme que désormais vous revendiquez.
Et pour le député LR Stéphane Viry,
rien n'est clair. Tout est à revoir.
Les députés ont deux semaines pour examiner le texte, avec le risque que le gouvernement recourt au 49-3 si le débat est impossible.
Et dans le même temps, aujourd'hui, le premier des six rendez-vous entre les partenaires sociaux pour tenter de trouver une alternative à l'âge pivot, conférence de financement qui doit déboucher sur des propositions d'ici la fin avril.
Ce n'est pas encore le grand discours sur le communautarisme promis depuis des mois à l'Élysée, mais une nouvelle étape. Après avoir consulté des élus au début du mois, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Mulhouse.
Le chef de l'État dont le vocabulaire a même changé pour évoquer le sujet, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, vous l'aurez noté, à l'Élysée, on ne parle plus de communautarisme. Le terme est jugé trop vaste par l'entourage du président de la République. On parle désormais de séparatisme. Ce sont les populations qui ne veulent plus faire partie de la communauté républicaine, s'alarme un conseiller. Dans la ligne de mire, ces quartiers où l'islamisme politique s'installe, dans les lieux de culte, les associations, le scolaire hors contrat, le sport, c'est ce qui arrive quand la République a trop longtemps reculé, reconnaît un ministre concerné. L'ingérence étrangère est notamment pointée du doigt. C'est à Mulhouse que se situe la plus grande mosquée française en construction, financée à moitié par le Qatar. Un proche du président précise « On ne stigmatise pas les musulmans, eux aussi veulent être protégés, mais c'est toujours sur les mêmes territoires que se passent les mêmes problèmes. On est sur une ligne de crête, reconnaît-on à l'Élysée. C'est pourquoi le président parlera aujourd'hui autant en répression que vivre ensemble. Dans les quartiers, le nouveau leitmotiv d'Emmanuel Macron, c'est la reconquête républicaine.
Les suites judiciaires des secousses de la campagne de La République en marche à Paris. L'artiste Piotr Pawlinski et sa compagne doivent être présentés aujourd'hui à un juge en vue d'une possible mise en examen pour avoir diffusé des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. La famille d'Alexandra de Tadeo affirme qu'elle a été manipulée.
À eux deux, ils pèsent 16 milliards d'euros. Alstom s'offre la branche ferroviaire du Canadien Bombardier. Alstom qui va débourser 6 milliards d'euros pour ce rachat. Les enjeux de ce rachat avec Emmanuel Dutheil.
Le fabricant de notre TGV est aujourd'hui en forme, le carnet de commandes est bien rempli. Mais voilà, pour le rester et pour devenir un champion de la mobilité durable, il faut investir des sommes folles pour innover. Et chez Alstom, on pense que Bombardier peut être le bon allié pour y arriver. Un bon connaisseur du dossier le résume ainsi. Avec cette opération, 1 plus 1 va faire 3. Autrement dit, en additionnant les ressources des deux groupes pour innover, eh bien le nouvel ensemble ira beaucoup plus vite. Les deux groupes se disent assez complémentaires d'un point de vue géographique et du côté des produits, et ils promettent qu'en France, il ne devrait pas y avoir, en tout cas à court terme, d'impact sur l'emploi. On est sur un marché en croissance, assure-t-on en interne. Reste à obtenir peut-être le plus dur, le feu vert de Bruxelles. La Commission avait bloqué il y a quelques mois le mariage entre Alstom et Siemens. Dans le camp français, on veut croire que l'on a appris de cet échec pour réussir cette fois ce mariage. Signe qui ne trompe pas, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rendez-vous dès ce mardi avec la commissaire en charge de la concurrence.
Et Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, sera mon invité à 7h40 en exclusivité sur Europe 1 ce matin.
Et sur les rails, les TGV low cost de la SNCF vont bientôt arriver en ville, à Lyon. Pour l'instant, les Ouigo desservent l'aéroport Saint-Exupéry, mais à partir du 1er juin, certains trains rallieront Paris au centre de la capitale rhodanienne. Le patron de Ouigo, Stéphane Rappebach, s'en est expliqué ce matin à 5h40 sur Europe 1.
Avec Ouigo, Paris, centre, Lyon, centre, ça sera 3 allers-retours par jour à partir de 16 euros pour les adultes et puis à 8 euros qui sera un tarif fixe pour les enfants. Nous, on croit à l'accroissement de trafic. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les gens qui prennent encore leur voiture entre Paris et Lyon, sur l'autoroute, sur la 6, qui prennent le bus, qui prennent le covoiturage, ben, choisissent par un TGV qui propose un service et un prix moins cher, de pouvoir prendre le TGV plutôt que de prendre sa voiture. Donc nous, on ne croit pas en fait à la cannibalisation, mais on croit bien à l'accroissement de trafic sur un trafic qui est entre les deux plus grandes villes de France et dont on croit que une partie serait intéressée par rejoindre le train plutôt que de prendre sa voiture.
Le directeur général de Ouigo, invité d'Europe 1, tout à l'heure à 5h40. La confirmation hier soir du ministère de l'Agriculture, c'est bien le virus de la tomate, inoffensif pour l'homme mais redoutable pour les plantations, qui a été détecté dans une exploitation du Finistère.
Et trois autres exploitations qui ont reçu le même type de plant, originaire du Royaume-Uni, vont faire l'objet d'inspections et de prélèvements.
Europe 1, il est 7h07.
La mobilisation de la jeune génération pour le climat. On a beaucoup parlé des grèves du vendredi entamées dans de nombreux pays dans la foulée de Greta Thunberg. Aujourd'hui, cette mobilisation se décline aussi dans les grandes écoles.
Et c'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Romain Oquet.
Bonjour Mathieu.
Illustration sur le campus de l'un des plus prestigieux établissements de France, à Polytechnique, où plus de la moitié des étudiants s'opposent à l'installation d'un centre de recherche du pétrolier Total.
Alors ce qui cristallise les tensions, c'est la construction d'un immense bâtiment par Total, 10 000 mètres carrés au milieu du campus de l'école. L'entreprise parle d'un centre de recherche sur les énergies propres, mais les étudiants ne décolèrent pas. 61% d'entre eux ont voté contre ce projet. Une révolution dans cette école où les élèves sont sous statut militaire. D'ailleurs, ils sont soumis à un devoir de réserve. Parler aux médias peut leur coûter leur diplôme. J'ai quand même pu interviewer l'un d'eux à condition de modifier sa voix.
Comment c'est possible que ça soit aussi gros et que personne n'ait vu le problème ? Le business majeur de Total à l'heure actuelle, ça reste l'industrie pétrolière. Enfin, personnellement, j'ai d'énormes doutes sur la sincérité de Total en matière de transition écologique. Ils ont une super stratégie de com', hein, je dis pas. Enfin, je veux dire, ils sont tout à fait capables d'influencer l'école comme ils sont capables d'influencer la stratégie européenne sur les énergies. Et donc, on aura la direction d'un grand groupe pétrolier qui pourra aller prendre le café avec la direction d'une école de la République. Il y a une limite à la proximité à partir de laquelle on est dans l'indécence et là, on y est.
En fait, ces étudiants ont peur que Total fasse du lobbying pour les influencer, eux, grands ingénieurs et futurs décideurs du pays. En tout cas, l'entreprise veut faire de ce centre un lieu d'échange avec une cafétéria, des espaces de convivialité ouverts à tous. L'école, de son côté, défend le projet. Pour elle, Total va devenir un acteur incontournable de la transition énergétique. Alors, mieux vaut travailler avec le groupe plutôt que de lui fermer la porte.
Et est-ce que d'autres grandes écoles sont concernées, Romane, par ces mobilisations étudiantes ?
Oui, par exemple, à Sciences Po Paris, Total finance des bourses pour les étudiants. Deux cours sont aussi assurés par des responsables et anciens responsables du groupe. Des enseignements qui, selon certaines associations étudiantes, affichent un parti pris en faveur des énergies fossiles. Mais la direction assume, ces cours ne visent pas la neutralité. Bien évidemment, les étudiants savent qui ils ont en face d'eux.
Mais pourquoi Total s'implique-t-il autant dans ces grandes écoles ?
Eh bien parce que le groupe est inquiet, il a de plus en plus de mal à recruter ses jeunes diplômés. D'après nos informations, en interne, Total a officiellement identifié ce problème d'attractivité comme un risque pour le groupe. C'est une première. Total ne peut donc plus compter uniquement sur son statut de grande entreprise pour recruter. Il va devoir convaincre ses étudiants de ses intentions en matière de transition énergétique.
Et on retiendra cette information, un Total qui intègre donc ses difficultés de recrutement dans sa stratégie. C'était l'enquête de la rédaction d'Europe 1, signée Romain Oquet.
Des difficultés en cascade aussi liées à l'épidémie de coronavirus en Chine. Moins de production et moins de demande. Apple a revu à la baisse cette nuit ses objectifs de vente.
Mais toute l'économie mondiale risque d'être touchée. Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Votre éclairage éco avec déjà les pays voisins de la Chine qui commencent à souffrir.
Oui, et le premier c'est le Japon qui est quasiment sûr désormais de tomber en récession. Tokyo a clairement indiqué hier que sa situation économique s'était nettement détériorée ces dernières semaines. La même inquiétude gagne la Thaïlande ou encore Singapour qui voient leur activité se dégrader à toute vitesse. Il faut bien voir que c'est la première fois que des signes aussi concrets de contagion économique se manifestent dans d'autres pays. Alors est-ce grave? Pour l'instant, c'est difficile à savoir qu'on ne dispose pas de chiffres. On ne dispose que de chiffres parcellaires sur la situation de l'économie chinoise elle-même. On sait par exemple que le marché automobile s'est littéralement effondré avec une baisse de 25% des ventes. On se doute que la croissance sera révisée à la baisse et quand on sait que la Chine représente désormais un tiers du PIB mondial, ça n'annonce rien de bon.
Et l'Europe peut-elle être à son tour touchée?
Alors pour l'instant, les industriels qui se fournissent en Chine ont pu faire face, notamment grâce à leurs stocks, mais selon les calculs de l'économiste Patrick Artus, si le commerce chinois recule de 10%, l'impact serait de 0,3% de croissance en moins pour la zone euro. De son côté, le FMI a lancé l'alerte. La croissance mondiale de 2020, prévue pour l'instant à plus 3,3% cette année, pourrait elle aussi ralentir. Alors ce ne sont encore que des craintes et ces scénarios ne se réaliseront que si l'épidémie se prolonge. En tout cas, la Banque centrale chinoise multiplie des mesures d'aide pour soutenir l'activité. Mais ce que révèle cette crise, c'est que l'économie mondiale est très vulnérable à un choc de ce type et c'est sans doute une leçon à tirer pour l'avenir.
C'était l'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Merci.
Europe 1. Et votre journal qui se poursuit dans un tout petit instant avec de futures mamans en quête d'accouchement moins médicalisé. Une proposition de loi pour généraliser les maisons de naissance doit être déposée aujourd'hui au Sénat. On en parle tout de suite.
Europe 1, il est 7h13. La suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
Ce sont des structures rares en France et on voulait vous en parler aujourd'hui. Les maisons de naissance saluées pourtant par les femmes. Aujourd'hui, elles veulent avoir le choix pour accoucher.
Pour que l'hôpital ne soit pas la seule option. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Vous nous le révélez ce matin, une femme sur cinq aimerait accoucher dans ce type de structure gérée par des sages-femmes.
Oui, 9 femmes sur 10 voudraient que ces maisons de naissance se multiplient dans le pays. C'est un sondage Ipsos qui vient d'être publié. Pourtant, il n'y en a que 8 en France. À titre de comparaison, il en existe 169 en Angleterre et une centaine en Allemagne. Et vous allez comprendre pourquoi les femmes plébiscitent ces maisons en écoutant Margot Dacieux. Elle a accouché dans la seule maison de naissance qui existe à Paris. Elle nous fait visiter.
Bonjour, bienvenue au Calme. Le Calme, en fait, c'est l'acronyme de « comme à la maison ». Et ce qu'on essaye de faire dans les chambres de naissance, bah, c'est qu'on se sente comme à la maison.
Je vous suis.
Alors là, on est dans une des deux chambres de naissance du Calme. Donc ici, il y a évidemment une grande baignoire, il y a un grand lit de place. On a des tapis de sol, si la maman se sent mieux pour le travail au sol.
Ce qui dénote aussi avec une autre chambre d'hôpital classique, c'est qu'il n'y a pas de table d'accouchement.
On laisse aux mères la liberté de choisir la position dans laquelle elles se sentent le mieux. Et ça n'est quasiment jamais allongé sur le dos.
Les femmes se rendent compte qu'il est aussi beaucoup plus naturel et moins douloureux d'accoucher debout ou à quatre pattes, et ce, même sans péridurale, ce qui est la règle dans toutes les maisons de naissance.
Alors le naturel, c'est bien Victor, mais s'il y a un problème au moment de l'accouchement, il se passe quoi?
Il y a une maternité juste à côté. Une porte sépare cette maison du bloc opératoire en cas de problème, donc sécurité maximale. Et puis il faut savoir aussi que les 500 femmes qui accouchent en moyenne par an dans ces maisons de naissance présentent des grossesses sans complications.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus?
En fait, il y a plusieurs obstacles. Le premier est financier. Une maison de naissance, ça coûte 170 000 euros aux autorités de santé. Ouvrir de nouvelles structures, ça voudrait donc dire débloquer des fonds. Le deuxième frein vient des gynécos. Comme il n'y a pas de médecins dans les maisons de naissance, c'est autant d'accouchements et donc d'actes médicaux rémunérés qui leur échapperaient. Enfin, le dernier blocage est culturel. Depuis les années 50, la grossesse a été médicalisée de façon croissante en France. On parle essentiellement de la grossesse comme d'un risque, pas d'une expérience de vie. Mais pour celles comme Camille, mère de 2 enfants qui ont accouché dans les 2, hôpital et maison de naissance, il n'y a pas photo.
On passe dans des hôpitaux où il y a énormément d'accouchements, il faut aller vite, c'est comme ça. C'est l'industrie des bébés, on est comme des voitures qu'il faut produire à la chaîne, ta. Et après on nous dit, rentrez chez vous, votre bébé est en bonne santé, au revoir madame. J'entends dans les copines qui racontent leur accouchement, il y a comme une acceptation du fait que ce soit, ça se passe pas bien, mais bon, C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et en fait, on peut avoir un enfant en bonne santé et un bon accouchement.
Ces 8 maisons de naissance, c'est juste une expérimentation qui a démarré en 2015, mais qui prend fin dans quelques mois. Le gouvernement va devoir trancher très rapidement sur la suite. Et pour faire pencher la balance, une proposition de loi est déposée aujourd'hui au Sénat pour généraliser les maisons de naissance partout en France.
Vous avez peut-être connu ces maisons de naissance. N'hésitez surtout pas à témoigner le hashtag Europe 1 ou alors le 3921, la quête d'accouchement moins médicalisé. Un dossier signé Victor Dolande pour Europe 1.
Ils vont tenter de conjurer le mauvais sort après 3 éliminations d'affilée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens entament ce soir la phase éliminatoire de la compétition européenne.
Le PSG sur la pelouse de Dortmund. Et cette fois, contrairement aux 2 années précédentes, l'entraîneur parisien pourra compter sur Neymar pour ses rencontres. Thomas Tourelle s'en est réjoui au micro de Julien Froment pour Europe 1.
Il a la confiance, il a la qualité, il a la capacité pour faire des choses décisives. Ça change tout pour nous, ça change tout pour Kylian. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité.
L'entraîneur parisien Thomas Tourelle avant donc ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Dortmund PSG, coup d'envoi à 21h.
Et une soirée spéciale sur Europe 1 autour de Lionel Rosso, ici en public dans les studios d'Europe 1 bien sûr. Et avec Julien Froment et Cyril de la Morinerie pour vous faire vivre le match depuis Dortmund. 7h17, merci Marion Calais. Un nouveau journal à 7h30.